vous avez mis la robe de circonstance aujourd'hui. Bonjour Annick Valéry.
Bonjour Philippe.
C'est, alors, les auditeurs, effectivement, n'ont pas les images, c'est un peu le principe de la radio. Donc vous avez une robe toute bleue avec des belles, qu'est-ce que c'est comme fleurs,
des
fleurs partout.
Des marguerites.
Voilà, donc on est vraiment dans le jardin avec
dans
vous.
Dans le temps, voilà.
Les causeries vertes, et on va parler cette semaine des légumes perpétuels. Qu'est-ce que c'est un légume perpétuel ?
Alors, un légume perpétuel, vous connaissez certainement l'oseille. Il y a quelques personnes qui en ont encore dans leur jardin, ce légume qui est un peu de la famille des épinards, qui a un goût un peu acidulé, que personnellement j'aime bien. Alors qu'on redoute maintenant, parce que ça a la réputation de nuire aux gens qui auraient des rhumatismes, mais c'est le genre de plante qu'on peut mélanger avec d'autres choses et c'est vraiment très sympa.
Ça veut dire que si c'est perpétuel, c'est qu'on en mange toute l'année, c'est ça ?
Ça veut dire que c'est une plante éternelle, une plante vivace en fait.
D'accord.
Que vous n'avez pas besoin de replanter sans arrêt.
Ah, d'accord.
Vous avez la touffe qui va rester en place, un peu comme les rhubarbes aussi. Hein,
on cueille et ça revient.
Voilà, et ça revient.
D'accord.
Alors quand la touffe s'épuise un peu, ce que l'on peut faire, c'est on la segmente en plusieurs morceaux.
J'y connais pas grand-chose.
Non, mais c'est pas grave.
J'apprends.
C'est forcément bien, puisque du coup, ce sont certainement des questions que se posent aussi les auditeurs.
Les auditeurs, oui.
Voilà. Et alors l'oseille qui était très utilisée autrefois, surtout au Moyen-Âge, quand on faisait des élevages de poissons, de poissons blancs dans les étangs. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié, qui se pratique encore un peu dans l'Allier ou dans des endroits comme ça où on fait des étangs à carpe.
Mm-hmm.
Mais c'était quelque chose qui était beaucoup plus courant.
Oui, une sauce à l'oseille, c'est magnifique.
Voilà,
hein.
Et le problème de la carpe, c'est qu'en fait, elle a beaucoup d'arêtes qui sont fines et qui sont difficiles à trier. Alors, dans un premier temps, on pêchait la carpe qui barbote un peu dans la vase. On la mettait dans un grand contenant, une grande citerne d'eau fraîche. Donc, la carpe se nettoyait un peu de toute cette vase. Et ensuite, on la faisait cuire, souvent farcie. Et dans la farce, on mettait de l'oseille. Et l'oseille, en fait, avait pour fonction de ramollir les arêtes hein, qui pouvaient être gênantes à la consommation.
D'accord.
C'est sympa, hein.
Mais
voilà.
Ça donne du goût et en plus,
c'est
ça...
malin. Voilà.
Et c'est malin.
Voilà. Alors l'oseille, moi, je l'aime bien en mélange avec des épinards, par exemple. Mm-hmm. Ça relève un petit peu le goût. Et puis toutes sortes d'herbes que l'on pourrait faire cuire, imaginez au printemps, avec du vert de blette, on peut faire un petit mélange vert avec du vert de blette, de l'oseille, de l'épinard, pourquoi pas quelques pieds de pissenlit. Et on a quelque chose que chez moi on appelait la bourbouillade.
La
bourbouillade. Alors c'était un mélange d'herbes cuites. Hein. Que l'on faisait avec un genre de petite sauce blanche à l'ail.
Mmh.
Et ça avec un œuf dur. Ah, c'est de la bombe. Voilà. Après,
vous me donnez faim, Annick.
Voilà, je suis vilaine. Après, ce que l'on ramassait, moi, quand j'étais petite, alors moi, je ne suis pas née ici, je suis née dans le Midi.
En Provence.
Voilà. Pas très loin, à
Nîmes.
Et ce qu'on avait les ramasser, puisqu'il y avait le droit de glane à l'époque, c'était les poireaux de vigne. Ça, c'était avant les désherbants. Hein. Et en fait, on partait dans les vignes, on demandait la permission au propriétaire et puis on ramassait les poireaux. Et c'est des poireaux vivaces. C'est des poireaux qui ont le diamètre au maximum d'un petit doigt.
D'accord.
Et qui sont aussi délicieux que des asperges. C'est vraiment très, très bon. Et qui faisait qu'au printemps, tous les poireaux fleurissaient en même temps. Ça faisait des têtes fleuries de couleur rose et ça illuminait toutes les vignes. C'était magnifique.
Et pourquoi avec les vignes ? Ça les protégeait des mauvaises herbes ?
Je pense que le travail de la vigne faisait que c'était un peu éloigné de l'herbe. Les conditions étaient favorables. Le sol, c'était souvent des sols de ce qu'on appelle des graves, hein, des sols qui contiennent quand même pas mal de cailloux. Et le poireau, en fait, il s'y plaisait beaucoup puisque ces poireaux, comme ils sont vivaces, en fait, ils se multiplient alors déjà par les graines, mais ils se multiplient aussi par ce qu'on appelle les cailleux, c'est-à-dire qu'à la base, si vous arrachez un poireau de vigne, vous avez plein de petits bébés, de petits bulbes minuscules qui sont rattachés. et qui vont pouvoir à leur tour donner, donner naissance à des poirons. Et ça, bon, je trouve ça génial. C'était la nature est généreuse. Donc nous, on adorait ça. Et on peut, c'est le genre de choses qu'on peut installer aussi dans un endroit un peu ingrat de son jardin, vu que ça, c'est quand même assez sobre comme... Comme plante. Et en plus, ce sont, comme ces variétés sauvages, ça prend moins les parasites que d'autres que d'autres.
C'est plus résistant.
Voilà, souvent, oui.
Et pourquoi on me disait que c'était à l'époque avant les désherbants, parce que maintenant, avec les désherbants...
Le poireau, il a disparu.
Il a disparu. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup.
Non, voilà. Mais on y revient parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les canicules augmentant, le fait qu'il n'y ait pas de couvert herbeux à la, place des, à la base
des vignes
ouais. fait que les températures montent et qu'il n'y a pas cette évaporation de fraîcheur, même si elle est limitée et que la végétation n'est pas très, très dense. Et donc, on est en train de faire des choses différentes maintenant. On est en train de nouveau enherber les pieds de vigne. Et alors, quand on va pousser le truc jusqu'au bout, on y met aussi des moutons pour tondre, pour éviter que l'herbe monte trop. Et ce sont des moutons dont je vous avais déjà parlé, les moutons de Shropshire. Alors, cheval, pois chiche. Il faut s'appliquer pour le prononcer. Les moutons de Shropshire, ils ont cette particularité, c'est qu'ils ont une mutation qui fait qu'ils ont une bouche qui est extrêmement sensible. Donc, ils ne vont jamais aller grignoter la vigne parce que pour eux, c'est insupportable. Et donc, ils vont manger l'herbe entre les pieds. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est des moutons qui sont aussi utilisés dans les vergers puisqu'ils n'attaquent pas les écorces. Et ils sont aussi utilisés dans les plantations de sapins de Noël.
Ah, d'accord.
Voilà, puisqu'ils ne grignoteront pas le sapin non plus.
Non plus.
Et en plus, ça fume la vigne. Elle n'est pas belle, la vigne. Dans un autre style, alors quelque chose par contre que j'ai vu par ici il y a longtemps, mais qu'on trouvait dans les jardins, c'est l'oignon rocambole. Mmh. Alors l'oignon rocambole, bon, comme tous les oignons, il a il a des tiges en forme de cylindre. C'est la différence entre le poireau et l'oignon. Hein. Le poireau va avoir une feuille plate et l'oignon va avoir une feuille en forme de tube. Et c'est un oignon qui est assez grand. Au bout de chaque tige, il y a un tout petit oignon qui se forme. C'est extraordinaire. Donc, le petit oignon grossit. La tige finit par céder sous le poids. Elle casse. Et le petit oignon se plante plus loin.
D'accord.
C'est vraiment, c'est magique. Moi,
c'est automatique. Hein.
Voilà. C'est... Donc, ça vous permet de régulièrement avoir des bébés. Qui, voilà, c'est vraiment une plante que je trouve assez merveilleuse.
Et le goût est bon.
Ah, c'est un goût d'oignon. Donc, oui. L'idée, c'est que vous allez manger les pieds qui sont les plus gros. Et puis, vous allez garder les bébés pour perpétuer l'espèce.
Tout
et
à
ça,
fait.
C'est plutôt sympa.
Et pour l'avoir pour l'année prochaine.
Voilà. Alors, moi, la première fois que j'en avais vu, c'était à Saint-Savin, dans la vallée d'Argelès. Et je regardais ça à travers le grillage. J'étais émerveillée. Alors, j'attendais la progression. J'attendais le moment où la tige se casserait. J'avais vu ça dans un vieux jardin. Mais il y a encore des gens qui en ont le souvenir. Hein. Et ça ne prend pas beaucoup de place. Et c'est plutôt sympathique. Alors, ne vous attendez pas à des super productions. Mais voilà, si vous avez besoin de dépannage, tout ça, ça peut être sympa. L'ail des ours aussi, qu'on peut acclimater dans les jardins. Et je vous recommanderais même de le faire parce que les cueillettes sauvages, surtout quand elles sont sans limite, ça commence quand même à poser des problèmes. En plus, l'ail des ours, bon, qui a une feuille luisante, peut être confondu avec le muguet qui est extrêmement toxique. Alors, le muguet a une feuille mate plutôt, mais bon, voilà. Et alors, à ce propos, moi, j'ai trouvé l'année dernière dans un jardin qui était modifié parce qu'il fallait un espace pour faire jouer des enfants, un ail que je ne connaissais pas, que j'ai réussi à identifier comme étant l'ail triquetre. Alors, l'ail triquetre, en fait, on entend treux de trois. Hein, quand la tige de la fleur pousse, elle a trois faces. C'est très, très amusant. Je n'avais jamais vu ça. Et une feuille plus mince que celle de l'ail des ours, mais avec exactement les mêmes usages. J'avais trouvé des recettes sur la retransmission d'une émission de FR3 Corse. Apparemment, là-bas, ça pousse bien. Donc, ça doit supporter aussi mieux la chaleur que l'ail des ours. Et franchement, c'est très sympa. En plus, la fleur est très jolie. Et puis, comme dans l'ail des ours, tout se mangeait, la feuille, la fleur, le bouton de fleur. Enfin, on peut se faire plaisir. Et en plus, c'est très esthétique. Une autre plante que j'aime bien, c'est la livèche. Alors, la livèche, ça a un nom un peu revêche. c'est un céleri sauvage. Au départ, on appelle ça l'ache des montagnes, H-A-C-H-E. Et c'est ce qu'on appelait autrefois, ce que les mamies appelaient autrefois l'herbe à magie. Alors, magie, c'est la référence au cube qu'on mettait.
Oui, aujourd'hui.
Pourquoi qu'on met Oui, pour faire. Mais bon, ça, à une époque, c'était universel. Oui. Il y avait des plaques émaillées pour faire la réclame. Si je me rappelais bien, c'était une boîte cubique jaune. Voilà, c'est les vieilles pubs, c'est vraiment quelque chose d'ancien. Et la livèche, en fait, quand vous cassez une branche, et c'est pas très haut, et ça fait 25 cm de haut au maximum, autant que je sache. Et une seule branche suffit à agrémenter un potage. C'est des branches minces, c'est assez étonnant. Le parfum est très puissant et ça fait partie donc de la famille du céleri. Voilà. Après, si vous voulez vous faire plaisir et faire des découvertes, allez faire un tour sur les catalogues d'une maison ancienne, moi, que je connais depuis toujours, qui s'appelle Bureau et Fils, bureau comme un bureau. Hein. Et là, vous découvrirez d'autres plantes de légumes, comme l'épinard fraise, en fait, le kénopode. Alors, le kénopode, si on le connaît ici, le kénopode Bon Henri. Le kénopode Bon Henri, c'est un épinard vivace. Et on le trouve en montagne, en fait, à côté des endroits où il y avait des troupeaux. Alors, les troupeaux ont disparu, les abris des bergers ont disparu, mais il reste des kénopodes qui montrent qu'autrefois, il y avait des bergers là. Et en fait, ça aime des terrains assez riches, donc ça profiter beaucoup de la proximité des fumiers et tout ça. Et c'était les bergers qui les montaient et qui les plantaient pour pouvoir faire la soupe.
D'accord.
Voilà. Et ça, c'est kénopode Bon Henri parce qu'on pense que ça faisait partie des plantes qui rentraient dans la poule au pot et dans la potée du roi Henri IV.
Voilà, tout à fait. Merci beaucoup des légumes perpétuels. Voilà, je pense que vous êtes intéressable sur ce sujet. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est terminé. Merci beaucoup Annick Valérie, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, au revoir Philippe.